Campagne, bonjour. Nous allons passer une grande partie des journées à venir dans le département du Lot-et-Garonne qui vient de profiter de la semaine de l'ESS à l'école. Une opération annuelle organisée par l'association L'Espère et qui permet de faire comprendre aux plus jeunes ce que recouvre cette économie lorsqu'on parle de démocratie, de solidarité, de coopération et de citoyenneté. Et ce n'est pas un hasard si ces valeurs se rattachent directement aux lignes du grand débat national. Ici et là, des porte-parole, des filières de l'économie alternative, entre autres associations et coopératives, tentent de faire entendre leur voix au milieu des projets qui pourraient émerger à la suite des débats. Aujourd'hui, nous choisissons avec le labo de l'ESS d'écouter les propositions avancées par l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, dirigée par Sébastien Darigrand.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Sébastien Darigrand, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sébastien, directeur général de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Je rappelle les faits. 60 000 entreprises.
Établissements.
Ouais. Établissements. Mmh. C'est-à-dire on a des associations, des coopératives.
Des associations, des coopératives, des mutuelles qui représentent effectivement 60 000 entreprises qui fédèrent plus d'un million de salariés.
Mmh. Vous êtes le porte-voix de cette économie sociale et solidaire. À chaque fois, je reviens sur cet ensemble avec sa cohérence, mais avec les difficultés de la porter plus haut, de la mettre en avant. Est-ce que les pouvoirs publics vous entendent davantage aujourd'hui ?
Les pouvoirs publics nous entendent dans la mesure où il y a un pacte de développement de l'économie sociale et solidaire qui a été présenté il y a quelques semaines par le gouvernement.
Vous voulez dire donc que c'est récent ?
C'est récent, effectivement, ouais. Puisqu'on a attendu 18 mois pour que ce pacte puisse être présenté à l'ensemble des acteurs de la filière, avec une forme de difficulté qui est que ce pacte manque d'ambition par rapport à la capacité de l'économie sociale et solidaire à changer d'échelle. Il y a des premiers pas tout à fait intéressants dans le pacte, mais qui sont insuffisants pour permettre à l'économie sociale et solidaire d'être vraiment une économie qui marque et qui imprègne fortement l'économie du pays dans toutes ses dimensions, et surtout par rapport à la sortie de crise sociale que nous connaissons aujourd'hui et sur lequel nous pensons que nous avons un certain nombre de réponses à apporter.
Avant de parler du grand débat national avec vous, Sébastien, est-ce que l'ensemble des organismes et des structures de l'économie sociale et solidaire ne souffrent pas d'un mal qui est le sien inhérent à sa fragilité, à une précarité de certains emplois ? Et quelle amélioration sont envisageables par votre organisme ?
Nous travaillons sur différentes dimensions à cet endroit, c'est-à-dire que nous avons pris à bras le corps depuis quelques années la question de la qualité de l'emploi, que nous traduisons à travers des accords collectifs pour permettre des cadres de travail plus à même de répondre effectivement à des situations de temps partiel, des situations de rémunération, des situations d'accompagnement à la formation des acteurs. On travaille aussi à accompagner nos employeurs, notamment sur toutes les dispositions récentes, législatives ou réglementaires qui concernent la dimension sociale, les questions d'emploi, les questions de formation, avec une vraie préoccupation aujourd'hui, c'est que nous avons un besoin énorme de renforcer l'attractivité de nos métiers et de nos secteur. Les études montrent qu'on a beaucoup de jeunes qui veulent travailler chez nous parce qu'ils y trouvent du sens, mais on a besoin, nous, de travailler sur l'attractivité de nos métiers et de nos secteurs pour que ces jeunes trouvent véritablement leur place dans l'économie sociale et solidaire. Une économie aujourd'hui qui a une volonté très forte d'appuyer les nouvelles mutations, qu'elles soient les mutations du travail, la mutation numérique ou les nouvelles mutations énergétiques.
Il y a quelques semaines, Christophe Ittier, donc haut commissaire à l'économie sociale et solidaire, est venu intervenir dans les carnets de campagne pour parler de ce pacte en faveur de l'économie sociale. On dit, dans le cadre du grand débat, l'ESS a toutes les faveurs, normalement. C'est-à-dire, si on parle démocratie, citoyenneté, et en particulier gouvernance, que vous défendez, qui est important, ben, on a les principes, normalement, bien appliqués à l'intérieur des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Du développement durable, c'est assuré. Du rôle de l'humain au profit d'une économie, et non l'inverse, comme on le dit régulièrement, on le sait. De notions de proximité, d'emploi non délocalisables, on a tous les atouts en poche. Qu'est-ce qui manque ?
Nous savons ce que c'est que l'économie citoyenne, nous savons ce que c'est que la démocratie, nous pratiquons le partage de la valeur ajoutée, nous pratiquons le partage des richesses. Il y a tous les jours des assemblées générales dans les structures de l'économie sociale et solidaire qui font vivre une démocratie citoyenne, qui s'applique de façon très concrète, la règle des trois tiers, donc un tiers pour les salariés, un tiers pour l'entreprise et un tiers pour le développement des emplois, qui est quelque chose qui est pratiqué depuis des décennies dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc nous avons une empreinte forte sur les solutions à apporter à la sortie de la crise sociale qui est celle qu'on connaît maintenant depuis quelques mois dans notre pays.
Sébastien Darigrand, directeur général de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, invité au Descarnets, parce que on veut souligner les contributions de l'ESS dans le grand débat national. Alors, il y a des contributions qui doivent être entendues, vous allez nous les faire partager. Il y en a à travers quatre thématiques. Merci, vous m'avez préparé le travail, je vous remercie. Mais on va y réfléchir ensemble. Comment d'abord mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se loger, se déplacer, se chauffer, par exemple.
Alors vous savez, la crise, elle date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est une crise qui couvre depuis plusieurs décennies. On n'accuse pas le gouvernement actuel de tous les maux, mais il y a quand même, depuis quelques mois, une volonté de nos concitoyens d'être davantage écoutés, pris en considération, impliqués dans les réformes du gouvernement. Il y a des réformes très importantes qui ont été portées par ce gouvernement depuis qu'il est au pouvoir. Mais néanmoins, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces réformes ont besoin d'être fortement accompagnées. Elles ont surtout besoin de raisonner par rapport à ce qui concerne effectivement la vie quotidienne des Français. Alors là-dessus, nous on considère qu'il y a plusieurs priorités. La première, c'est la nécessité d'améliorer ce quotidien à travers notamment tout ce qui relève de la simplification des démarches administratives pour permettre aux Français d'accéder aux aides sociales existantes. Mmh. Savez-vous qu'il y a plus de 30% des Français qui ne savent pas comment accéder aux aides sociales ? Parce que le système est complexe, qu'ils ne comprennent pas la façon
et d'accéder... Et donc, ils n'entreprennent pas la démarche.
Et qu'il faut aller chercher pour bénéficier des aides sociales. Donc, on a un taux de non-recours important qui nécessite d'améliorer l'accès des démarches administratives sous forme de guichets permettant d'avoir une meilleure visibilité sur ces aides-là.
Sans multiplier les guichets, parce qu'on va se perdre sur le parcours.
Non, mais il y a quand même besoin, de malgré tout, d'y voir clair dans ces situations qui touchent des personnes qui n'ont pas forcément les outils pour aller identifier quels sont les bons leviers pour développer les outils d'accompagnement de ces politiques sociales. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut mettre le paquet sur l'emploi et le logement des jeunes. On voit aujourd'hui que les problématiques de logement sont prédominantes dans la capacité de nos concitoyens à être mobiles sur l'emploi.
Sébastien, excusez-moi, vous avez plusieurs illustrations, applications et solutions déjà entreprises par des associations et des structures de l'ESS. On peut préconiser, comme vous le faites, des urgences et des points importants auxquels il faut apporter une réponse, mais les réponses, vous les avez déjà.
Les réponses, on les a déjà en partie, c'est-à-dire quand on voit ce que porte l'économie sociale et solidaire dans le développement de l'économie des services, avec des perspectives de développement économique très fort ces prochaines années, développement très très fort de l'économie du care, l'économie de la santé, on voit qu'on a besoin d'être davantage accompagné sur les problématiques d'emploi. Je vais prendre deux, trois exemples. On voit aujourd'hui que la façon dont le gouvernement prend le sujet de la dépense publique va souvent sur moins de dépenses publiques et donc moins de dépenses sociales. Alors qu'on a besoin d'avoir davantage de dépenses sociales pour faire face justement au phénomène de précarité et répondre à la crise, qui est une crise d'incapacité d'un certain nombre de concitoyens à y voir clair sur la façon dont l'État régalien doit s'occuper d'un certain nombre de leurs problématiques. Le deuxième sujet, c'est celui sur l'emploi, notamment l'emploi aidé. Un emploi aidé, c'est pas un gros mot, puisqu'il y a aujourd'hui nombre de secteurs d'activité qui sont aidés par l'État ou par les collectivités pour réaliser une mission. Et nous, on voit aujourd'hui que sur les dimensions d'emploi, il y a eu une chute très forte dans ce qu'on appelle les contrats aidés d'insertion et un remplacement par des parcours d'insertion qui sont insuffisants pour permettre l'accompagnement des personnes fragiles dans le développement des activités et des emplois.
Je voudrais qu'on note quand même les autres thématiques.
Bien entendu.
Rapidement, en particulier le système fiscal que vous considérez comme lourd et inefficace.
Nous, on pense que la nécessité est de le rendre plus juste et plus compétitif et surtout plus lisible. On a beaucoup parlé de la taxe sur le carburant. Nous, on est favorable à développer une fiscalité écologique, mais non punitive. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'il y a, de la part du gouvernement et de la part des acteurs en général, la difficulté à mettre en place des dispositifs qui ne proposent pas d'alternative. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une taxe carbone, mais on ne va pas mettre des éléments de nature à pouvoir accompagner de façon cohérente les transports, la voiture électrique, dont les coûts sont encore très prohibitifs. Le deuxième exemple, c'est celui de l'économie circulaire. On voit aujourd'hui qu'on aurait tout à fait intérêt à baisser la TVA sur des produits qui sont réalisés en local, qui contribuent à la transition écologique, qui contribuent à une alimentation durable. Eh bien, on considère, nous, que ces produits doivent avoir une fiscalité plus avantageuse que d'autres produits qui développent des dimensions plus globales. Et enfin, nous sommes très très favorables à ce qu'il y ait une modification de la fiscalité en direction des entreprises de l'économie sociale et solidaire, en aidant les entreprises à faire de la recherche et développement autour de l'innovation sociale, ou de réformer ce qu'on appelle la taxe sur les salaires, qui est un impôt qui est contre-productif, puisque plus on crée de l'emploi, plus on est taxé, alors que on pourrait considérer que la taxe sur les salaires est modifiée en fonction de la quotité d'emploi.
Je cite les deux autres thèmes sur la pratique de la démocratie et de la citoyenneté, et vous dites qu'il faut donner une place réelle à la représentation des employeurs de l'ESS. Ça, c'est votre rôle.
Nous, on est évidemment favorable à développer la citoyenneté et la démocratie à travers différentes dimensions. Il faut redonner au corps intermédiaire le rôle d'amortisseur des crises qui est le leur, et il faut surtout qu'on soit très très vigilant à ce que la démocratie populaire qu'on voit se développer aujourd'hui avec les idées de référendum, d'initiative citoyenne, ne vienne pas contrecarrer le rôle de l'État et des corps intermédiaires qui est de gouverner et de développer les conditions d'un pacte social républicain. On ne peut pas gouverner avec des référendums. Voilà. Et vous l'avez souligné à l'instant, à ce moment-là, le rôle de nos entreprises doit être davantage pris en considération dans la démocratie sociale. Ce n'est pas complètement le cas aujourd'hui. Et mettre en place une véritable délégation de services au public en direction des entreprises de l'ESS, dont, encore une fois, le rôle dans l'économie du service et dans la capacité de prospective des métiers et des emplois est majeur. Et nous avons pour cela besoin d'être davantage accompagnés par l'État dans le cadre de nos missions.
Et vous avancez aussi donc la rénovation des cadres d'action des associations avec l'État, mais le mieux, je vous renvoie au site de l'UDES, vous allez trouver le lien à nos pages d'émission ainsi qu'avec le labo de l'ESS. Merci Sébastien, bon courage pour la bataille.
Bah écoutez, on s'y emploie et on espère que cette sortie de crise va nous permettre d'aller sur des réformes ambitieuses pour le pays.
Merci.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Et on ouvre tout de suite la série dans le Lot-et-Garonne du jeu des 1000 euros Mont-Saint-Prons, Libos, Nicolas Stoufflet.